9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Je reçois ce matin l'architecte Rudy Ricciotti qui a inauguré cette semaine avec le président de la République le 19M, le bâtiment qu'il a réalisé pour Chanel, porte d'Aubervilliers, et qui publie au même moment un manifeste légionnaire à la gloire de la Légion étrangère. Je recevrai ensuite la grande chef d'orchestre Emmanuelle Haïm qui revient au Théâtre des Champs-Élysées au mois de mars. Mais d'abord, on va s'intéresser à la primaire populaire qui doit avoir lieu le week-end prochain. Il y a déjà plus de 352 000 inscrits. On est loin des 2 800 000 participants de la primaire ouverte qui a désigné François Hollande en 2011. Mais c'est plus que les 140 000 militants qui ont voté lors de la primaire LR en novembre dernier, plus que les 122 000 votants de la primaire écologiste. Le problème, c'est qu'elle pourrait bien être illégale. C'est ce que dit Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public. Il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Jean-Philippe Derosier.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de droit public, membre de l'Institut universitaire de France et l'auteur du blog La Constitution décodée. La primaire populaire, d'après vous, n'est pas vraiment une primaire. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, quoi qu'elle en porte le nom, elle n'est pas une primaire, pour diverses raisons. Alors, il n'y a pas de définition légale, juridique de la primaire. C'est un phénomène relativement récent en France et il n'est pas régi par des textes en vigueur. Mais disons que l'ancienneté et les pratiques qui se sont déroulées en 2011, vous venez de rappeler, la primaire qui a désigné François Hollande, puis en 2017, montrent que ce sont généralement des désignations qui sont organisées par des partis politiques et surtout qui ont un objectif, c'est d'investir un candidat en vue d'une élection, en l'espèce l'élection présidentielle, et tous les autres participants à cette primaire s'accordent pour dire que s'ils perdent, ils soutiendront le dit candidat et en tout cas, ils ne seront pas eux-mêmes candidats. Et là, on a un phénomène, un processus dit primaire populaire, mais les organisateurs eux-mêmes commencent à revoir un petit peu leur vocabulaire, qui veut non pas investir, mais dire quel serait, au conditionnel, le candidat le mieux à même de porter certaines valeurs de gauche, tandis que d'autres participants ont dit « Nous, on se désolidarise et on ne reconnaîtra pas cela, on ne veut pas participer, mais ils seront quand même inclus dans le processus. »
Alors, il faut savoir en effet qu'on n'y votera pas pour un candidat. Hein. On va attribuer à chacun une mention « assez bien, bien, très bien ».
Absolument, c'est une forme de nouveau processus de vote qui est intéressant. Il mériterait d'être débattu pour que les électeurs le comprennent bien, mais pas là, ainsi livré en pâture sans aucune explication. Il est destiné à classer les candidatures en fonction effectivement d'une appréciation, comme vous venez de le dire. Et c'est celui qui a la meilleure appréciation qui est censé porter ces couleurs-là. Mais trois candidats en particulier, dont on a beaucoup parlé cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, sont inclus dans le processus. Hein, les organisateurs de la primaire ont bien dit qu'ils seraient soumis à l'appréciation des votants.
Ils sont candidats malgré
mais
eux.
Malgré eux, parce que eux ont dit très clairement, et on ne peut pas être plus clair, nous ne voulons pas être candidats à cette primaire. Nous sommes candidats devant les Français à l'élection présidentielle.
Alors justement, ces candidats inscrits contre leur volonté, quel problème ça pose ? Ça risque d'induire les électeurs en erreur, vous
dites. Ça peut induire les électeurs en erreur. Ça peut fausser ce que l'on appelle la sincérité du scrutin, parce que imaginez qu'il y a des électeurs qui ne suivent pas forcément de façon ultra attentifs toute l'actualité. Ils ont entendu parler d'une primaire, ils ont bien sûr entendu parler d'une élection présidentielle, ils ont entendu parler des différents candidats, mais ils ne sont pas au fait de tous ces péripéties auxquelles ces candidats sont soumis, et ils vont entendre quel est le vainqueur de cette primaire. Donc il y a forcément un seul vainqueur et d'autres qui seront des perdants. Et ils vont retrouver le nom de ces perdants le jour du scrutin de l'élection présidentielle. Et donc, il pourrait leur en tenir rigueur en disant « Lui, moi, je voulais bien voter, lui ou elle, je voulais bien voter pour lui, mais après tout, il a perdu, il ne respecte pas la règle de la primaire. Et donc, pourquoi est-ce que je vais lui faire confiance alors même qu'il n'est pas solidaire de ce processus auquel il a été soumis ?»
Il pourrait penser aussi, cet électeur qui ne se tient pas tellement au courant, il pourrait penser aussi qu'une telle ou un tel ne sont plus candidats puisqu'ils ont été battus à la primaire populaire et ne pas se déplacer parce que c'était pour elle ou eux qui avaient l'intention de voter.
Absolument, ils pourraient penser cela et donc du coup ne plus aller voter. Ou ils pourraient penser qu'une telle ou un tel a perdu au profit d'un autre ou d'une autre qui a gagné. Et donc, il va reporter, cet électeur, sa voix sur l'autre qui a gagné, alors qu'initialement, il voulait voter pour le précédent. Donc, tout cela, effectivement, contribue à induire les électeurs en erreur, fausse un petit peu la transparence, la limpidité, la sincérité du scrutin. Le principe de sincérité du scrutin, c'est un principe constitutionnel.
Oui, c'est ça.
Donc, qui découle de l'article 3 de notre Constitution. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est juste là pour faire joli. C'est un élément fondamental pour bien faire fonctionner notre démocratie.
Alors, vous dites que ça n'est pas une primaire, pour les raisons, toutes les raisons que vous venez de nous expliquer, et qu'au fond, c'est un sondage.
Oui, effectivement. Disons qu'à partir du moment où l'on est là pour manifester une préférence pour un candidat, où ce processus est là pour désigner celui qui est le mieux à même de porter les couleurs, déjà on se rapproche un petit peu d'un sondage. Et là, en matière de sondage, on a une législation. On a la loi de 1977, qui a été plusieurs fois modifiée depuis, qui régit et qui définit ce qu'est un sondage. Premièrement, elle dit que le nom importe peu. Il ne faut pas tenir compte du nom d'un processus pour qualifier un sondage ou non.
S'ils disent qu'on est une primaire, on n'est pas un sondage, c'est quand même un sondage.
Ça peut quand même être un sondage. Et ce qui fait que c'est un sondage, c'est une étude, une enquête statistique, donc sur la base d'études d'un nombre, et destinée à faire part à partir d'un échantillon de préférences, d'opinions. Et là, on est globalement dans ce processus-là, c'est-à-dire que des électeurs, on dit qu'il y en a 350 000, il y en aura peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, vont manifester des préférences et on va voir un classement des candidats, le mieux à même, un petit peu moins bien, un petit peu moins bien. Et donc, ça a véritablement la couleur d'un sondage.
On va voir la conséquence que ça peut avoir, le fait que ce soit un sondage. Mais d'abord, on fait une pause, Jean-Philippe de Rosier.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Jean-Philippe de Rosier, professeur agrégé de droit public, l'auteur du blog La Constitution décodée, qui est en train de nous expliquer pourquoi, d'après lui, la primaire populaire, dont le succès, a priori, fait la joie des organisateurs, pourrait bien ne pas être légale. Et notamment parce qu'il ne s'agit pas d'une primaire, nous dit-il, mais d'un sondage. Et qu'un sondage, c'est ce que vous expliquez également, il faut le déclarer au préalable à la commission des sondages. Sinon, on ne peut pas publier les résultats.
Exactement. Lorsque l'on est soumis à la législation sur les sondages, alors moi, c'est une analyse que je fais. Après, si un juge est saisi, il aura examiné ça de façon plus minutieuse. Moi, je n'ai pas eu accès à tous les documents de l'association et d'organisation de cette primaire.
Oui, ils l'ont peut-être déclaré.
Alors ça, non, parce que tout est publié sur le site de la commission des sondages. Donc là, il n'y a pas eu, je suis allé voir, effectivement, il n'y a pas eu de déclaration. Mais en tout cas, si la législation de la loi de 1977 venait à s'appliquer à l'égard de ce processus, effectivement, il y a des obligations de déclaration. Il faut publier une notice et la transmettre à la commission des sondages qui va l'examiner et qui va la publier, expliquant la méthodologie du sondage, comment est-ce que l'on débouche sur un échantillon représentatif. Parce que la représentativité de l'échantillon, ce n'est pas tant ce qui définit le sondage qu'une obligation qui s'impose une fois que l'on a identifié le processus sondagier. Donc, s'ils sont soumis à cette législation du sondage, s'ils rentrent dans la définition prévue par la loi, alors ils doivent avoir un échantillon représentatif. Cela, ils doivent l'expliquer comment est-ce qu'ils le font. Et il y a également une autre obligation essentielle qui est la communication sur les marges d'erreur. On entend souvent cela lorsque l'on voit les sondages publiés. Tel candidat est à 5, tel candidat est à 7. On dit ils sont dans la marge d'erreur parce que, effectivement, sur la base de l'échantillon interrogé, il peut y avoir plus ou moins 1% ou plus ou moins 1,5%. Il y a toute une grille sur les marges d'erreur qui est publiée par les instituts de sondage à chaque sondage qui est réalisé pour que l'on comprenne bien et que l'on puisse savoir, effectivement, lorsqu'il a 5%, est-ce que en réalité il oscille entre 4 et 6 si la marge d'erreur est de 1%.
Mais là, ça ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas y avoir de marge d'erreur puisque cet échantillon est basé sur le volontariat. Donc,
et bien,
il n'est
là,
pas censé c'est représenter qui que ce soit.
C'est effectivement là tout le problème. S'ils tombent sur le coup de la législation sur les sondages, ils sont effectivement assimilés à un sondage. Il y a le problème sur ces marges d'erreur, il y a le problème sur la représentativité de cet échantillon.
Mais Jean-Philippe de Rosier, alors si on suit votre raisonnement et si on se dit en fait tout ça n'est pas légal, mettez-vous à la place d'Anne Hidalgo, de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot, qui justement ne cesse de pester contre l'obligation qu'il aurait faite de figurer parmi les concurrents de cette primaire populaire alors qu'ils ne veulent pas en être, est-ce qu'ils ont les moyens de porter plainte? Parce que si c'est illégal, on peut porter plainte, non?
Oui, bien sûr. Alors, ils peuvent tout à fait saisir la justice et ils ont plusieurs possibilités. Soit saisir la justice en demandant demandant à ce que ce processus soit interdit parce qu'il est illégal, soit plus vraisemblablement saisir la justice en utilisation abusive de leur nom. Parce que leur nom, effectivement, vous citez Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, qui sont des candidats bien identifiés dans le processus présidentiel et même au-delà, sont des personnalités politiques reconnues. Lorsque l'on utilise leur nom, ça fait inévitablement de la publicité au processus. Et donc, ils peuvent ici faire un recours en utilisation abusive de leur nom et demander à ce que leur nom soit retiré.
Et puis, il y a le problème de l'argent.
Effectivement. L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, comme on le dit, et en politique, c'est le nerf de la guerre électorale. Et il y a des règles très strictes en matière de financement de la vie politique, de financement des partis politiques et de financement des campagnes électorales. Et ici, il y a une certaine opacité qui tourne autour de la primaire populaire. Il y a eu une première association qui avait été créée, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, parce qu'elle existe toujours, 2022 ou jamais, qui n'a jamais prétendu être un parti politique. Et se rendant compte que tout ce phénomène prenait en quelque sorte, que ça allait peut-être déboucher effectivement sur la vistature d'un candidat, ils ont créé une deuxième association qui s'appelle la primaire populaire, et qui, elle, est enregistrée auprès d'un organisme qui s'appelle la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et du financement public, et qui contrôle justement tout cet argent dans le milieu politique, qui contrôle l'application des règles. Les règles, quelles sont-elles ? Elles sont très claires. On ne peut pas donner plus de 7 500 € à un parti politique par an, et on ne peut pas donner plus de 4 600 € à un candidat à l'élection présidentielle. C'est plafonné pour respecter une forme d'égalité entre tous les candidats et tous les partis. Et la primaire populaire a bénéficié de dons qui dépassent ces plafonds, ils l'ont reconnu eux-mêmes, parfois allant jusqu'à 20 000 ou 50 000 euros, ce qui pose d'inévitables problèmes. Alors ils s'en sortent parce que ces dons ont été faits à la première association, qui n'est pas un parti politique. Mais la deuxième association, comment est-elle financée ? Parce que si la deuxième est un parti politique, elle ne peut pas recevoir de financement d'autre chose qu'un parti politique. Une association ne peut pas financer un parti politique. Et ça, c'est vraiment très, très fermé. Une entreprise ne peut pas financer un parti politique. Là aussi, pour éviter des abus de biens sociaux, des détournements de fonds et des inégalités. Et donc, il y a là une certaine opacité qui a conduit, notamment, Jean-Luc Mélenchon à faire un premier communiqué de presse disant qu'il ne veut absolument pas être associé à ce processus et qu'en rien, il ne veut que les dépenses de ce processus, de cet organisme, soit porté au crédit de son compte de campagne qui va être passé à la moulinette par la CNCCFP après l'élection présidentielle et qui pourrait soit lui faire dépasser le plafond, soit faire qu'il y a des irrégularités dans son compte de campagne. S'il y a des irrégularités dans le compte de campagne, il est rejeté. Et quand il est rejeté, c'est sur ses fonds propres. Nicolas Sarkozy avait connu cela lors de l'élection de 2012 et il avait dû payer lui-même les plusieurs millions d'euros de son compte de campagne.
Merci Jean-Philippe Derosier. On va voir la suite, puisque je le rappelle, la primaire populaire est prévue le week-end prochain. On fait une pause et on se retrouve avec un architecte, c'est Rudy Ricciotti.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Rudy Ricciotti.
Bonjour.
Grand prix national d'architecture, on vous doit entre autres le Mucem à Marseille, le Stade Jean-Bouin à Paris, le Pont de la République à Montpellier, le Bordeaux Métropole Arena, et vous avez inauguré cette semaine avec le président de la République et son épouse le 19M, le gigantesque bâtiment pour Chanel que vous avez réalisé Porte d'Aubervilliers. Est-ce que ça leur a plu ?
Écoutez, d'abord, ce bâtiment pour Chanel, c'est surtout un bâtiment pour tous ces métiers d'art. C'est 600 emplois, c'est 600 métiers extrêmement rares, ces métiers de la main, ces métiers de la transmission, ces métiers de l'artisanat qui font une qualité française et une exception française.
C'est les bottiers, les lisseurs, les gantiers, les brodeurs, les plumassiers qui se retrouvent tous réunis dans ce bâtiment.
Oui, oui, mais qui sont quand même des métiers fragiles, qui peuvent disparaître et... Et là, quand même, toute la pertinence de ce programme, de ce projet, qui a pour objet de les protéger, de les mettre en situation de subsister et de ne pas disparaître. Ce sont métiers qui ont souvent des filiations de presque séculaires, d'un siècle, avec une mémoire incroyable, et qui pratiquent la transmission. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire, ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est la transmission des savoirs d'un apprenti, d'un jeune, à une personne plus experte. Voilà. Et l'architecture, d'ailleurs, parle de ça.
Oui, alors l'architecture, elle a ceci de particulier, hein, c'est une de vos idées un peu folles, c'est que c'est donc un bâtiment de 25 000 mètres carrés enveloppé de fils de béton de 24 mètres de haut, un hommage au textile, j'imagine.
Mais évidemment, donc, mais c'est surtout dans un tressage. C'est une première mondiale, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'est une expertise que j'ai nourrie par d'autres ouvrages, le Mucem, etc., et qui, elle aussi, parle de la transmission des savoirs, de la transmission de métiers, d'une ingénierie de haut niveau, des sachants. Et vous savez, on n'est jamais architecte seul, on est architecte avec les autres. Et les autres, ce sont les confrères, les boiseurs, les maçons, tous ces gens admirables comme j'aime les légionnaires, par exemple.
Alors justement, si je vous invitais aujourd'hui, Rudy Ricciotti, c'est que vous publiez un nouveau livre coup de gueule après « L'architecture est un sport de combat » ou « L'exil de la beauté ». Voilà, « Manifeste légionnaire » chez NBE Éditions, un livre à la gloire de la Légion. Une Légion étrangère que vous avez rejoint hein, dans la réserve citoyenne, ils vous ont nommé colonel. Et une Légion étrangère qui représente d'après vous une avant-garde que personne n'avait vu venir. Pourquoi une avant-garde ?
Honneur et fidélité, telle est leur devise. Et il y a l'idée de combativité pour les croyances, il y a l'idée de fidélité dans l'amitié, il y a l'idée de fidélité à la France, il y a celle aussi de l'expérience de la solitude. Ce que disait Blaise Sandrard, ce que je dois à la Légion, c'est l'expertise de la solitude. Il y a aussi l'idée du sacrifice, des valeurs qui ne sont plus du tout d'actualité. Et ce livre n'est pas un coup de gueule, c'est un livre extrêmement tendre, avec parfois de l'humour, comme vous avez pu le constater, vous me l'aviez dit. Ce sont des gens d'exception, ce qui est rare. Vous savez, les légionnaires ne sont pas français par le droit du sang, mais français par le sang versé. Imaginez tous ces jeunes qui s'engagent, qui viennent du Népal, de l'autre bout du monde, 150 races, nationalités, cultures, religions différentes, qui se retrouvent dans un tissu de fraternisation incroyable.
Vous dites au fond que la Légion étrangère tient les promesses de la République, et notamment la fraternité, hein, parfois même entre anciens ennemis.
Évidemment, puisqu'ils viennent de pays étrangers. Ils viennent même de pays qui ont combattu l'un contre l'autre. Et ils arrivent à transcender ça. Le sujet n'est pas là. Leur sujet, c'est d'être fidèle à la France, fidèle à la République. Et en ce sens, là où il y a avant-garde, c'est que cette fraternité extrême participe de la reconsolidation du socle républicain.
L'universalisme, par exemple, qui vous est si cher.
Mais oui, ils sont héritiers de l'universalisme républicain, comme les légions romaines.
Vous dites d'ailleurs, quelque part dans ce livre, que la Légion étrangère, c'est l'alliance du génie gaulois et de la Légion romaine.
Oui, je parle de la bière et du barbecue aussi, c'est un peu ça aussi, avec ironie.
Oui, mais c'est vrai sûr. Que les Gaulois buvaient de la bière, hein, les Romains, lui, eux, buvaient du vin.
Voilà, mais ils boivent les deux. Mais bien sûr que c'est cet héritage-là aussi, cet héritage de l'Antiquité. Par exemple, lorsque dans les légions romaines, un combattant avait eu de la dignité, avait eu de l'intelligence, avait montré fraternité avec ses frères d'armes, il pouvait acquérir la citoyenneté romaine. Mais c'est pareil, ces légionnaires, lorsqu'ils ont servi la France, ces étrangers qui viennent de pays perdus, ces gens qui ont connu l'humilité, la souffrance dans leur jeunesse, qui reconstruisent un destin, qui ont le droit de se réparer, se trouvent confrontés à un avenir nouveau, s'ils survivent au combat auquel ils sont confrontés, pour le SMIG et avec une balle dans la tête pour solde de tout compte.
C'est cet effacement du passé qui caractérise la Légion. Hein. Quand on s'engage, on a cette image d'Épinal, on oublie ce que vous avez pu faire avant. Ça aussi, c'est... Alors, ça n'est pas la promesse de la République, mais en tout cas, c'est une avant-garde dans une époque comme la nôtre où on n'oublie rien.
Oui, voilà, c'est la promesse d'un avenir meilleur. C'est la volonté de se reconstruire, un nouveau destin. Que ce soit clair, il n'y a pas... il y avait peut-être à l'origine des mauvais garçons, mais il n'y a pas de crime de sang chez les légionnaires. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont souffert, énormément souffert. Des gens qui viennent sur le toit d'un bus depuis le Népal en mangeant des pommes de terre crues pour frapper à la porte de la Légion.
D'autres qui c'est vrai ça ?
Mais bien sûr que c'est vrai. D'autres qui en plein Covid arrivent à traverser, alors que la France est totalement verrouillée, à traverser le Rhin à la nage pour rejoindre les postes d'enrôlement. Et qui échappent à tout contrôle, qui sont des gens extraordinaires, qui sont des renards de la nuit. ce sont déjà des vrais combattants. D'arriver jusqu'à frapper à la porte en pays totalement étanche, il faut quand même le faire. Il faut aussi quand même que vous sachiez qu'on n'accepte pas n'importe qui dans la Légion. Un seul candidat sur 8 est retenu. Et la différence ne se fait pas sur l'exercice de la santé, sur l'exercice des performances physiques, mais aussi sur l'équilibre intellectuel, sur l'équilibre psychologique. Ce sont des gens qui sont analysés de très très près.
On fait une pause, Rudy Ricciotti. Je vous retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
C'est l'architecte Rudy Ricciotti qui publie son manifeste légionnaire, un livre à la gloire de la Légion. Vous l'avez dit, plus de 150 nationalités représentées. Hein. Parmi les anciens légionnaires, on compte aussi bien l'écrivain Ernst Jünger, le compositeur Cole Porter, Blaise Sandrart, qui était suisse, que vous citiez tout à l'heure, le peintre Hans Hartung, l'écrivain Arthur Koestler, le réalisateur William Wellman, le boxeur Marcel Cerdan, Malaparte aussi, le couleur de la peau, auteur de La Peau, pardon, François Sureau de l'Académie française, et vous désormais, Rudy Ricciotti, vous ont fait colonel de la réserve. Comment il y a un examen à passer pour entrer dans la réserve?
C'est surtout l'expression d'une confiance. D'abord, ce n'est pas colonel, même si on m'attribue le titre, mais je suis lieutenant-colonel, c'est en lieu et place du colonel. Et c'est une marque de confiance extrême. Et on m'a récemment décerné ce grade de première classe d'honneur qui est en bas. Je disais au général, qu'est-ce que ça change pour moi? Il me dit, Ricciotti, parce que dorénavant, tu es dans la famille pour la vie. C'est extraordinaire. Cette appartenance à une famille. Voilà, cette famille de fraternité, de tendresse. Vous savez, c'est finalement un ordre. Ce n'est pas une secte, c'est un ordre.
Un ordre chevaleresque, que vous voulez dire.
Oui, c'est un ordre éminemment romantique et révolutionnaire.
Vous dites que l'un des secrets de la Légion, c'est que les seuls vrais légionnaires, ceux qui font vivre la légende, hein, celle qu'on a vue dans les films depuis presque un siècle maintenant, ce sont les soldats du rang et les sous-off.
Oui, je l'ai dit, on me l'a reproché d'ailleurs. Hein, on m'a dit, il y a des officiers qui m'ont dit « Ricciotti, vous êtes un peu gonflé, qui sommes-nous alors ?» Mais c'est vrai que cette expérience de l'humilité, du silence, qui est celle des soldats du rang, est éminemment troublante. Évidemment, les officiers supérieurs sont des gens extraordinairement élégants. La plupart sortent de Saint-Cyr, ils ont fait Matsu Maspé ou Cagnipocagne. Ils sont des gens extrêmement cultivés. C'est ça qui aussi me marque. Des gens extrêmement cultivés et savants. Et au rang des sous-officiers et des soldats du rang, je vois une discipline, une rigueur. Vous savez, moi j'ai passé souvent des soirées en caserne avec eux, au premier régiment étranger de cavalerie, ou au premier régiment étranger de génie. Évidemment, on finit les soirées très arrosées. Alors, on se retrouve dans un milieu entre hommes, on est là, en treillis, etc. Au bar, 2-3 heures du matin, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a jamais trace de vulgarité, jamais de gros mots, jamais de facilité linguistique, et surtout, jamais de machisme. Comment un milieu qui est autant chargé de testostérone, moi je suis un gringalet là-dedans, hein, quand même, attendez, vous êtes tous des athlètes. Comment se fait-il? Je n'ai jamais rencontré un milieu aussi cultivé, aussi élégant et aussi raffiné. Jamais de blagues machistes. Ça ne passe pas. Jamais de prise de point de vue orageuse sur le panorama politique. Essayez de mettre à défi un officier supérieur de la Légion de donner un point de vue politique. Il a un point de vue politique. Il n'est pas un sous-citoyen. Mais il a une réserve d'une extrême élégance. Vous n'arriverez jamais à savoir ce qu'ils pensent. Ils sont entraînés au combat du mutisme. Ils sont entraînés au combat du silence.
Ils sont aussi censés être toujours prêts. Or, vous me décrivez une scène où vous étiez quelques-uns à avoir un peu trop bu vers 2-3 heures du matin. Oui. Pourtant, la Légion, c'est toujours prêt. Vous le dites dans votre manifeste. Hein. Ça aussi, ça fait partie pour vous de ce qui fait de la Légion étrangère une avant-garde qu'on n'avait pas vu venir.
Oui, alors écoutez, une avant-garde, celle des nuits arrosées, mais celle aussi de la présence. Vous savez, pendant les fêtes de Noël, j'étais sur le port de mon petit village à Cassis et je vois un capitaine avec sa femme enceinte, le landau avec un bébé dedans et une autre gamine qui doit avoir 5 ans. Et il me reconnaît et puis je le salue, je dis bonjour capitaine. Puis il me dit, je lui dis, qu'est-ce que vous devenez? Il me dit, je vais partir le 2 janvier au Mali, en OPEX, avec des commandos. C'est-à-dire, c'est du sérieux quand même, hein, c'est du lourd. Et oui, ce capitaine mais vraiment, c'est presque un prêtre. Il est un visage délicieux, un peu, presque petit bourgeois, presque, dans l'attitude, dans la réserve, dans la timidité. Et je sais où il va. Il va vers la baston, hein, de toute façon, probable. Et il m'envoie un texto la semaine dernière pour me dire « Votre ligne m'accompagne dans la pensée et me permet de méditer au travers de la solitude et à la fois sur l'absurdité du combat et à la fois sur ma fidélité à la France. » Et il me dit « Je vous remercie. » Je dis « C'est moi, capitaine, qui vous remercie. Vous êtes héroïque. Vous êtes au service de notre pays. Vous êtes un patriote et surtout, vous êtes dans le courage et le principe de beauté aussi. » C'est ce qu'il me répond par texto. Il me dit « Moi, rien, colonel. C'est ma femme qui incarne le principe de courage et de dignité. » Vous vous rendez compte? Vous connaissez beaucoup d'hommes capables comme ça de parler de leur femme enceinte? Et il va rentrer au mois d'avril. Entre-temps, sa femme aura accouché. Cette expertise de la solitude dans la dignité extrême est troublante. Ça renvoie à Buzzati, d'une certaine manière.
Dino Buzzati, au désert des Tartares, vous voulez
dire? Exactement, évidemment, à Buzzati, bien sûr. Évidemment, mais ça renvoie aussi aux écrits de Malaparte, lorsqu'il décrit les situations de conflit et cette esthétique qui survit malgré tout, dans la dignité des hommes, dans leur souffrance, dans leur coupure avec le réel. Ils sont sur notre réel, sur notre territoire de réel.
Merci Rudy Ricciotti, manifeste légionnaire, c'est paru aux éditions NBE. Passez un bon dimanche, on se retrouve dans un instant avec une chef d'orchestre, une grande chef d'orchestre, c'est Emmanuel Haïb.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Emmanuel Haïb.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes l'une des grandes chefs d'orchestre de notre époque. Vous célébrez cette saison le 20e anniversaire du Concert d'Astrée, l'ensemble vocal et instrumental dédié à la musique baroque que vous avez fondé en 2001. Vous êtes produite avec lui sur les plus grandes scènes mondiales, avec les meilleurs solistes, que ce soit Nathalie Dessay, Patricia Petitbon ou Philippe Jarowski. Je parle là que des Français ou des francophones. Il paraît que vous vouliez déjà être chef d'orchestre à 8 ans. C'est vrai pour la baguette? Ou...
Absolument, oui, oui, c'est vrai. Et alors, extraordinairement, dans l'école élémentaire dans laquelle j'étais, à force d'obstination, on m'a laissé diriger la chorale de l'école. Je ne me souviens plus précisément comment j'ai fait, mais on me l'a laissé faire grâce aux maîtresses qui ont été très sympas et la directrice qui m'a laissé diriger quelques pièces.
Je disais, est-ce que c'est la baguette qui vous attirait? Mais je crois que quand on est chef baroque, on se sert de la main.
Alors, comme je suis claveciniste, au démarrage, je me suis dit, puisque Handel dirigeait du clavier, Mozart aussi d'ailleurs, et Bach aussi d'ailleurs, on est un peu occupé depuis le clavier, alors la baguette, le clavier, ou la poser entre les dents peut-être. Donc effectivement, j'ai beaucoup dirigé sans baguette. Aujourd'hui, quand j'ai des très très grands effectifs, une énorme masse chorale, un grand effectif instrumental devant moi et des grandes distances. Parfois, je prends la baguette tout de même, qui aide à une certaine lisibilité.
Quand on parle de la musique baroque, il faut toujours s'arrêter à un instant parce que le grand public fait la différence entre la musique classique, le rock et le jazz, mais il ne fait pas la différence entre la musique classique et la musique baroque. Et moi-même, j'ai mis assez longtemps pour la faire. La musique baroque, ça commence avec Monteverdi à peu près au 17e et ça se termine avec Bach, Handel, Vivaldi et Rameau au 18e. La musique classique, ça commence avec l'invention de la sonate, Haydn, puis Mozart, Beethoven, Schubert. Une fois que j'ai dit ça, j'ai l'impression d'avoir tout dit, mais en réalité, qu'est-ce qui les différencie vraiment?
Alors, il y a beaucoup de choses. L'écriture est certainement moins fixée, donc il y a beaucoup de pratiques qui, en fait, ne sont pas sur la partition. Vous parliez de Monteverdi. Par exemple, dans Monteverdi, on a une ligne de basse, et puis on a la ligne du chanteur, et entre les deux, qu'est-ce qui se passe? C'est improvisé. Et donc, il y a toute cette partie d'improvisation très importante. Les ornements ne sont pas écrits. Le rythme est suggéré par la partition, mais pas extrêmement précisément écrit. Donc, il y a une marge entre l'écrit et ce qui se passe véritablement, qui se fixe avec le temps. Plus on avance dans le temps, plus les choses sont vraiment écrites. Il y a tous ces instruments aussi qui... disparaissent à un moment donné, comme les clavecins, les luttes, les théorbes, l'harpe double, le lirone, qui est cette espèce de viol de gambe avec énormément de cordes et qui permettent de jouer des accords. Donc il y a tout un instrumentarium qui est véritablement...
Autant de différences au fond entre la musique baroque et la musique classique qu'entre le jazz et le rock, par exemple.
Oui, largement. Et puis cette pratique d'improvisation, par exemple, les chanteurs italiens auxquels on faisait faire des lignes d'ornementation pour qu'ils aient une capacité à orner une mélodie qui leur était proposée sur le chant. Et ça, c'est une pratique qu'on n'a pas nécessairement de nos jours, donc il faut travailler. C'est pour ça qu'on a besoin de se spécialiser finalement.
Je vous propose d'écouter un extrait d'un de vos plus beaux albums, je trouve, c'est Lamenti. On va écouter du Monteverdi, justement. Comme ça, on aura bien dans l'oreille, en entendant Lamento della Ninfa, ce qu'est la musique baroque. Emmanuel Haïm, pourquoi vous êtes-vous passionné pour la musique baroque ?
Je pense que mes professeurs y étaient certainement pour quelque chose. Ma tante, qui était mon premier professeur de piano, aimait beaucoup Bach. Elle m'en a fait beaucoup jouer. Et la porte d'entrée était probablement Bach, je dois dire, dans lequel je me suis immergée avec avec une passion non dissimulée de chaque instant.
Mais vous avez abandonné le piano aussi pour le clavecin. Ça peut sembler suranné, le clavecin, au moment où vous faites ce...
En fait, quand j'ai mis la première fois les doigts sur un clavecin, je me suis sentie tout de suite chez moi. Le toucher, la profondeur, la beauté du son. Et puis cette chose très importante pour moi, qu'était l'improvisation et la liberté. Et le fait que la chose ne soit pas totalement écrite, là, on entendait dans l'extrait à l'instant de la ninfa, que on a une basse obstinée qui fait ti-da, di-da, sur lequel on va pouvoir développer autant qu'on veut, improviser, accompagner, servir la voix. Il y a une autre chose que je trouve, qui moi m'a tout de suite fascinée, c'est le lien au texte. Il y a beaucoup de musique vocale, et il y a un lien au texte, à la poésie, à la théâtralité, qui est très proche pour l'instrumentiste et qui m'a tout de suite entraînée dans ces histoires qu'on raconte.
Vous avez fait vos débuts de chef d'orchestre en 2001. La presse anglaise vous a baptisé Mrs. Dynamite. Depuis, on ne cesse de le répéter en France en ce qui vous concerne. Mais est-ce que c'était un compliment ou est-ce que c'était une critique ?
Oh, j'ai certainement dû un peu, étonner les Anglais, peut-être. Non, c'était un très bon souvenir que ces débuts à Glenbourne. D'abord, c'est une magnifique maison où tout est tellement professionnel, j'étais tellement portée, et on ne vous laisse que donner le meilleur de vous-même. Et je ne pensais qu'à la passion de l'opéra dans lequel j'étais, qui était une histoire très tragique, à vrai dire.
Et que vous n'avez pas dynamité, donc.
peut-être, en tout cas, par rapport à certaines façons de faire un peu plus calmes. Je ne me décrirais pas comme quelqu'un de calme, et c'est peut-être ça qui les a frappés.
Vous serez au Théâtre des Champs-Élysées les 9, 12, 14, 16, 18 et 20 mars, puis au Théâtre de Caen pour diriger Così fan tutte de Mozart dans une mise en scène de Laurent Pelli. Mozart, ça n'est pas de la musique baroque. Est-ce qu'un jour on pourrait vous entendre diriger une symphonie de Beethoven ou un opéra de Bellini ?
Qui sait ? Peut-être, mais si vous voulez, Mozart, tout dépend comment est-ce qu'on regarde la musique. Est-ce qu'on la regarde en venant de la musique d'aujourd'hui et en reculant dans le temps, ou est-ce qu'on regarde ça sous un prisme un peu différent, c'est-à-dire d'où vient-il ? Et par exemple, Mozart, ses opéras, il les dirigeait lui-même du pianoforte ou du clavecin, dans des effectifs parfois moindres, dans des toutes petit théâtre, si on prend Don Juan créé à Prague, dans un petit théâtre. Il faut peut-être aussi regarder les choses sous cet aspect-là, qui éclaire la musique un peu différemment.
Qu'est-ce que vous cherchez quand vous vous attaquez à une œuvre comme Così fan tutte? Vous voulez en donner une version originale ou au contraire, vous cherchez ce que Mozart avait dans la tête quand il l'a composé?
Je dirais plusieurs choses. C'est vrai que dans des ouvrages aussi intemporels que celui-là, d'abord on s'attaque à des chefs-d'œuvre. Il y a quelque chose en même temps d'impressionnant et en même temps on a envie de s'en saisir. Et puis on n'est pas tout seul parce que quand on aborde un ouvrage comme celui-là, on travaille main dans la main avec un metteur en scène, en l'occurrence Laurent Pelli avec lequel j'ai déjà collaboré. Donc je me réjouis de cette collaboration future. Et il y a aussi le regard de nous aujourd'hui par rapport à cette histoire. Comment est-ce qu'on la vit? Comment est-ce qu'on la lit? Et le regard qu'on a à plusieurs, avec effectivement les interprètes aussi, les chanteurs qui vont incarner ces personnages dans cette drôle d'histoire, si on peut dire, ou cette fable peut-être qu'est Così fan tutte, ainsi font-elles toutes.
Votre prochain album, La Fête Baroque, volume 2, sortira en CD en avril. Le volume 1 était sorti il y a une dizaine d'années chez Erato. Vous avez enregistré le nouveau lors des galas à Berlin et au Théâtre des Champs-Élysées en novembre dernier avec Nathalie Dessay, Sandrine Pio, Rolando Villazone. Tout ça fait partie du 20e anniversaire du concert d'Astrée. Je propose d'en entendre tout de suite un extrait. Mais prenons du Rameau, puisqu'on a commencé avec Monteverdi. Finissons avec Rameau, on aura couvert tout le spectre de la musique baroque. Il est temps de courir aux armes, un extrait de Dardanus. Dernier mot, Emmanuel Haïm, sur Rameau.
Moi, ce que je trouve incroyable avec Rameau, c'est sa vitalité extraordinaire. Quand on pense que son dernier ouvrage, d'abord, quand il commence à écrire de l'opéra, il a déjà 50 ans, et sa carrière de compositeur d'opéra commence. Et là, par exemple, on voit la force vitale de cette musique, son imagination, son refus de rentrer dans le cadre. Il écrit vraiment ce qu'il veut, ce lien avec des gens peut-être d'autrefois, mais qui nous parlent aujourd'hui directement, Monteverdi ou Rameau. Je trouve qu'il y a une intemporalité de la musique et qui est la chose qui me frappe le plus et qui me donne le plus envie pour communiquer aux autres, si vous voulez, cette universalité.
Merci Emmanuel Haïm.
Merci beaucoup.
Europe 1. C'est arrivé demain et terminé. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos, animé par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée?
Bonjour cher Frédéric, notre invité pour le grand rendez-vous sera Clément Beaune. Et pour l'interroger, je serai entourée de Nicolas Barré et de Mathieu Boccoté.
Bonne émission.
Europe 1.